partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jacqueline Bourras sur Radio IDFM pour l'économie en direct avec aujourd'hui des invités. J'ai perdu ma page, donc voilà. Bonjour, bonjour. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio, la radio du bien-être diffusée en FM, DAB+, web radio et sur notre appli. Centre commercial innovation technologique pour les ressources humaines des entreprises, home organizing, coaching en rangement, des activités très soucieuses de leur bilan carbone qui sera tout au long de l'émission notre fil rouge. C'est ce que nous allons découvrir ensemble jusqu'à 11h aujourd'hui mardi 17 janvier et non pas 20 janvier, là où j'étais tout à l'heure. Avec nous pour en parler, Alexandra Merlin. Bonjour Alexandra. Ravie de vous accueillir enfin dans nos studios.
Merci.
Alexandra, vous êtes la directrice de la galerie commerciale Les Portes de Taverny, située à la sortie numéro 4 de l'A115 en venant de Paris. Une galerie bien connue dans le Val d'Oise. Vous nous dévoilerez les coulisses de votre métier et vous nous direz tout sur cet espace hors temps aux lumières artificielles et qui doit être en folie depuis le début des soldes. À vos côtés, Philippe Bloquet. Bonjour Philippe.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Fondateur et CEO de PeopleSphere, une plateforme qui relie l'ensemble des logiciels RH au sein d'un même écosystème et dont le succès et l'expansion fait qu'aujourd'hui, il vous est impossible d'ignorer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance qui s'imposent dans vos décisions stratégiques. C'est ce que vous nous expliquerez dans quelques instants. À vos côtés, Pascal Revon. Bonjour Pascal.
Bonjour Jacqueline.
Très heureuse de vous accueillir à nouveau à l'antenne. Fondatrice et dirigeante de Tse Trier Simplifier Votre Espace, vous nous direz comment votre activité de recyclage, tri, accompagnement aux personnes âgées et plus encore se concilie plus que jamais à travers une éthique de nos responsabilités vers les enjeux écologiques. Bienvenue à tous les trois dans l'économie en direct sur IDFM Radio ou idfm.fr, une émission que vous pourrez réécouter grâce à son podcast accessible sur le site idfm98.fr et son appli. Alors, il n'arrête pas de partir en vacances, mais reste fidèle quand même à sa mission d'expert en bons petits plats et nous revient aujourd'hui, j'en suis sûre, avec une fameuse recette. Bien sûr, je veux parler de Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous et permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année que j'espère sera faite de bons petits plats qui feront plaisir à tout le monde.
Oui, eh bien bonne année, bonne santé. Et alors, qu'est-ce que vous nous avez prévu au menu de ce jour, Bruno ?
Eh ben, comme vous venez de le dire, je viens de passer 15 jours à la montagne dans un village que j'adore, où je vais très souvent, qui s'appelle Samoin. C'est niché dans la vallée du Giffre, la plus belle vallée du monde, évidemment. Et comme d'habitude, quelle que soit la saison, c'était super, même si je n'ai pas skié en raison du manque de neige. Mais là, ça y est, c'est comblé, ça. Alors, j'ai pas skié.
Vous n'allez pas repartir, alors ?
Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, j'ai pas skié, mais en revanche, j'ai cuisiné. Au fait, Jacqueline, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez prévu d'aller à la montagne cet hiver ou même cet été ?
Alors écoutez, c'est pas au programme, voilà,
non,
pour le moment, immédiat.
Bon, bien écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Enfin, je l'espère. Je vais vous y emmener à travers cette recette délicieuse, facile et qui surprendra tous vos invités. Alors non, je vous rassure, je ne vais pas vous parler de tartiflette, de raclette, de croziflette ou autres fondues qui sont d'ailleurs des incontournables. Non, je vais vous emmener plutôt vers un plat chaleureux, convivial. On va faire un poulet à la tomme. Ah, ça vous surprend, ça.
Bon,
hein. Ouais, j'en étais sûr. Vous allez voir comme c'est simple et surtout comme c'est bon. Alors, comme souvent, on va faire une recette pour 4 personnes. Pour cela, il vous faut au moins 4 morceaux de poulet, mais parce que vos invités vont adorer et vont sûrement vous en redemander. 40 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 30 centilitres de vin blanc sec de Pays de Savoie, naturellement. Un Apremont, par exemple, fera très bien l'affaire. Une boîte de tomates mondées et épépinées, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, de vider la boîte. En fait, il faut l'équivalent de 4 tomates. Mais les tomates, en ce moment, vous le savez, c'est pas franchement la saison. Alors qu'en conserve, ce sont très souvent des tomates de l'été dernier. Il vous faut aussi 2 cuillères à soupe de moutarde et 150 g de thym de Savoie, bien sûr. Pour commencer, vous allez voir, c'est simplissime. Vous faites fondre le beurre dans une cocotte et vous y faites dorer vos morceaux de poulet sur toutes les faces. Quand ils sont bien dorés, vous saupoudrez avec la farine, vous remuez, puis vous mouillez avec le vin blanc. Vous portez ensuite à ébullition et vous ajoutez les tomates que vous aurez quand même coupées en dés. Vous mélangez bien, vous assaisonnez bien, attention quand même, car le fromage que vous allez mettre est déjà un peu salé. Hein, et vous laissez mijoter une vingtaine de minutes à feu doux. Déjà, vous allez voir les parfums qui se dégagent, c'est pas mal. Vous incorporez maintenant la moutarde et la thym coupée en petits dés. Vous laissez encore mijoter 5 minutes. Et puis, vous savez quoi ? Ben vous avez terminé la recette. Il ne vous reste plus qu'à accompagner ce plat avec des pommes de terre cuites à l'eau ou à la vapeur. Avouez, Jacqueline, que c'est difficile de trouver plus simple. Et pourtant, je peux vous garantir qu'à chaque fois que j'ai fait cette recette, c'est un vrai succès. Voilà, Jacqueline, notre petit voyage en Pays de Savoie est terminé. N'oubliez pas quand même d'enlever vos skis en sortant du studio. Allez, au revoir, à très bientôt. Bonne cuisine à tous.
Merci Bruno. J'avais prévenu mes invités avant l'émission que vous nous donniez toujours des superbes recettes, c'est le cas.
Et super simple surtout.
Voilà, et ça donne envie de la préparer. Et si nos auditrices et auditeurs veulent le faire, ils la retrouveront sur le podcast.
Absolument.
Alors donc, pas de vacances la semaine prochaine?
Non, je serai là mardi prochain. Oui.
Merci Bruno.
Bonne émission à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
C'est l'économie en direct et ce matin, focus sur ces entreprises soucieuses du développement durable à travers leurs activités. Avec toujours à mes côtés Alexandra Merlin, directrice de la galerie commerciale Les Portes de Taverny, située à la sortie numéro 4 de l'A115 en venant de Paris. Philippe Bloquet, fondateur et CEO de PeopleSphere, plateforme qui relie l'ensemble des logiciels RH au sein d'un même écosystème impliqué dans les avancées de la RSE. Pascale Revon, fondatrice et dirigeante de Cétrier Simplifier votre espace, des actions en faveur d'une démarche d'économie circulaire et donc écologique. Et c'est parti pour notre premier débat avec vous, Alexandra Merlin. Alors, nous nous étions rencontrés sur le salon Effervescence en mars dernier. Et vraiment, merci d'avoir pu répondre à mon invitation.
Merci à vous.
Avant de parler des Portes de Taverny, pouvez-vous peut-être nous rappeler votre parcours ?
Oui, alors j'ai 35 ans et en fait à la base j'ai une licence en architecture et un master en urbanisme et planification du territoire, donc à la base rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais vous savez parfois le hasard des rencontres dans le cadre professionnel ça peut faire bien les choses, donc du coup je suis arrivée dans le milieu du commerce de l'immobilier voilà, commercial il y a quelques années et du coup je me sens bien et ça fait depuis maintenant 3 ans effectivement que je travaille donc pour le centre commercial Les Portes de Taverny.
Très bien. Alors ce centre commercial qui est géré, j'ai compris, par plusieurs entités, c'est ça ?
Alors effectivement, donc nous sommes un centre commercial, ce qu'on appelle une copropriété, parce que nous sommes trois grands copropriétaires dans la galerie. Donc en fait, il y a effectivement nous et Eurocommercial que je représente, nous sommes propriétaires d'une cinquantaine de boutiques, et après il y a Auchan qui sont propriétaires de leur propre hypermarché, et après il y a un troisième propriétaire qui détient, vos auditeurs le connaissent très bien, le ce qu'on appelle le ex-Bricorama.
D'accord.
Parce que Bricorama est parti il y a 2 ans, et aujourd'hui nous sommes en train travaux, la cellule est en train d'être divisée, parce que c'était une grande cellule, donc elle est en train d'être divisée pour accueillir, je l'espère, courant cet été, quatre ou cinq nouveaux locataires.
Très voilà. Bien.
Donc il y a des nouveautés au port de Taverny cette année.
Donc des locataires dont vous allez vous occuper, ça rentre dans la copropriété de l'euro commercial.
Oui. Donc nous avons le centre commercial a une soixantaine de boutiques et restaurants. Donc effectivement le quotidien il est très chargé parce que on a plusieurs missions. Effectivement il faut qu'on s'occupe de ce qu'on appelle la gestion courante. Oui. La vie du centre, et ça on le fait avec nos équipes de gestion, de sécurité et les équipes techniques. Nous avons la chance d'avoir vraiment des très belles personnes qui travaillent tous les jours dans le centre, et après moi je m'occupe aussi de toute la partie marketing, animation, parce qu'en centre commercial il faut le faire vivre. Et comme on a la chance en fait d'être un centre commercial de proximité, nous sommes un centre commercial familial, un centre commercial où 75% de notre clientèle nous est fidèle depuis plus que 10 ans.
Donc oui, le centre existe depuis 33 ans. Hein.
Exactement, on a soufflé nos 30 bougies il y a 3 ans. Et du coup, donc nous sommes aussi un centre, moi j'aime bien l'appeler un lieu de vie, parce que on essaye dans le quotidien de proposer à nos clients autre chose que juste on vient pour pousser un caddie ou pour faire nos achats. On essaye aussi de leur proposer des expériences, des événements qui font qu'en fait, envie de venir en famille avec les enfants ou venir tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que je dis toute la partie marketing et communication est très importante aujourd'hui, et après bien sûr il y a je m'occupe aussi de toute la partie relation avec nos clients et avec nos locataires.
Très bien. Et donc on l'a dit, depuis le 11 janvier ce sont les soldes, une période incontournable, et peut-être plus encore avec le problème de l'inflation.
Alors, dans tous les cas, on sait tous, les soldes ne sont plus comme avant, aussi parce que aujourd'hui, tout au long de l'année, il y a quand même pas mal de promos, du coup, oui, les soldes ont commencé le 11 janvier. Il y a eu aussi les ventes privées en amont qui ont commencé pour certaines enseignes presque tout de suite après Noël. Effectivement, les soldes, c'est aussi l'occasion pour faire des bonnes affaires.
Et est-ce que votre rôle de marketing et communication intervient dans le fait que les entreprises, enfin les enseignes, fassent telle ou telle promotion, ou pas du tout?
Alors, ce qui est intéressant dans un centre commercial, c'est que effectivement, on a ce qu'on appelle les enseignes nationales, les grandes enseignes, et après on a aussi des indépendants. Et en fait, chacun a sa propre politique. Sa propre politique de tout ce qui est promotion et marketing. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en soutien. Et on est là surtout pour communiquer au nom du centre commercial. Et après, effectivement, chaque enseigne développe sa propre stratégie.
Et donc, c'est une façon pour vous peut-être de concurrencer justement les achats via Internet?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période où l'internet a son importance, encore plus que jamais, je trouve le commerce physique est très 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 important, parce que comme je disais, c'est vraiment un lieu des échanges, c'est un lieu où on vient, où on se déplace,
c'est autre chose.
C'est autre chose, donc du coup, aujourd'hui, il faut avoir les deux. C'est comme ça, il faut avoir les deux, et d'où aussi maintenant il y a toutes les enseignes qui proposent ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire que tu peux acheter sur internet mais te déplacer pour récupérer ton achat dans le centre, dans les boutiques directement. Donc oui, l'internet c'est une révolution qui en marche, voilà.
Bon, donc une galerie commerciale qui se porte bien. Alors le le fil conducteur de l'émission, je l'ai dit, c'est le bilan carbone, une expression qui désormais résume à toute seule cette volonté d'agir de façon responsable. Il y a l'engagement personnel. J'ai une cliente qui est une entreprise dont le leitmotiv, c'est « petit geste deviendra grand ». Et puis, il y a les contraintes. Parmi vos contraintes, aujourd'hui, c'est la sobriété énergétique.
Alors, effectivement, la sobriété énergétique... nous avons dû trouver, on va dire, le bon équilibre entre ce qu'on appelle la sobriété, donc les mesures qui sont imposées, qui ont été imposées par l'État, et le confort
de vos clients.
Voilà. Donc effectivement, depuis cet hiver, nous avons mis en place tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire nous avons baissé le chauffage à 19 degrés, nous sommes assurés que toutes les lumières sont bien éteintes dès que l'activité se termine en centre.
Oui.
Voilà. S'arrête. Et toute la décoration de Noël, ça c'est depuis toujours et elle a toujours été en LED. Voilà, donc moins consommatrice en énergie. Et après, effectivement, on a essayé de limiter au maximum dans la journée la lumière artificielle dont vous faisiez référence. Et c'est vrai que nous avons la chance d'être dans un centre commercial qui est quand même baigné par la lumière naturelle. Voilà, donc ça c'est très agréable. Donc ça c'est les mesures qu'on a mis en place dans le cadre de la sobriété énergétique, mais nous n'avons pas attendu cette période. En fait, ça fait depuis quelques années qu'en fait nous sommes très soucieux. Donc tout ce qui est l'environnement, c'est un sujet qu'on prend en cœur. Nous avons il y a 2 ans certifié notre centre commercial en BREEAM-INUS. Donc BREEAM-INUS en fait évalue ce qu'on appelle la qualité environnementale d'un bâtiment, du bâtiment, mais aussi du management qu'on propose tous les jours. Donc oui, ce sujet il est important. Il est important pour nous, pour notre foncière et pour notre centre commercial.
Oui, c'est cette audit que vous avez fait faire, c'est de votre propre volonté, ça
oui,
n'était pas
oui,
imposé.
Oui, celle-ci on l'a fait il y a 2 ans. D'ailleurs, nous avons obtenu de très bonnes notes. Voilà, et du coup, c'est un audit en fait c'est pas qu'un audit on fait une fois et après on se couche sur les lauriers. Voilà, en fait on le renouvelle chaque année et voilà, toujours dans le but de s'améliorer et voilà.
Alors pour rester dans le fil conducteur, vous avez une réflexion aujourd'hui aussi sur l'installation de panneaux solaires pour le parking?
Oui, nous allons démarrer cette année la rénovation de notre parking. Donc on avait quand même, c'était une demande de nos clients, une demande chère de nos clients, c'était de proposer un parking un petit peu plus simple, parce que voilà, c'est le parking est quand même vieillissant, la circulation elle est pas évidente à l'intérieur du parking. Donc cette année nous allons démarrer donc des travaux de rénovation du parking, et du coup oui, effectivement, nous sommes en train de réfléchir sur l'installation donc des ce qu'on appelle les ombrières, voilà, les panneaux, et aussi créer encore plus de place pour pouvoir charger les voitures
avec des bornes
électriques. Oui, exactement.
Très bien. Alors, parce que nous avons Pascal Revon à côté de nous, je ne pouvais pas ne pas vous poser la question en ce qui concerne le tri des déchets de la galerie, notamment les emballages.
Oui. Alors, effectivement.
C'est de votre ressort.
Alors, justement, cet audit, en fait, analyse aussi, c'est tout un volet, la partie déchets, parce que comme vous dites, on produit quand même pas mal de déchets. Avec 60 boutiques, mais du coup donc déjà aujourd'hui on a une politique, nous sommes en train de signer avec tous nos anciens ce que nous on appelle des baux verts. En fait, l'idée c'est de sensibiliser au maximum tous nos locataires dans le cadre de la réduction de ce qu'on appelle des déchets. Et du coup oui, effectivement, sur notre site en fait on fait ce qu'on appelle le tri et nous avons fait il y a justement en décembre un audit déchets. On attend les résultats, toujours dans le but de les résultats et le plan d'action.
Oui.
Pour encore
pour améliorer,
améliorer, parce que comme on dit, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas.
Absolument.
Voilà, donc voilà.
Pascal est d'accord avec vous. Donc cette galerie, c'est aussi un soutien de l'économie locale, puisqu'il y a un marché de, vous disiez, qu'il y a beaucoup de manifestations, marché des créateurs. J'ai vu que vous aviez aussi fait une manifestation pour l'emploi.
Alors, déjà, bon, nos clients fidèles le remarquent chaque fois quand ils viennent nous voir. En fait, notre centre commercial, c'est un lieu ouvert à tout ce qui est association, tout. Toutes les manifestations locales, elles sont bienvenues dans notre centre commercial. Donc, ça c'est pour la partie associative. Pour la partie, vous faisiez référence du marché des créateurs locaux. En fait, c'est une initiative que j'ai mis en place déjà ça fait trois ans. C'était lors du fameux premier Noël Covid, où on était tous dans des difficultés. J'ai eu comme initiative de mettre à disposition gratuitement aux artisans ce que on appelle, c'est ceux aussi qui ont le label, ce qu'on appelle Made in 95, que vous connaissez
absolument,
très bien.
Oui, oui.
Voilà, nous les avons invités donc dans le centre commercial sur la durée du mois de décembre, pour pouvoir exposer et vendre leurs produits et justement se essayer cette clientèle qui est un peu différente de la clientèle. La grande majorité c'est des artisans ou des créateurs qui vendent sur internet, donc là ils descendaient dans un centre commercial. Donc du coup on avait fait ça la première année, donc c'était le première année Covid en décembre 2020, et du coup trois ans après on a continué parce que ça a eu un grand succès. Nos clients, ils étaient contents de retrouver aussi des produits,
des enseignes qu'ils ne connaissaient pas.
Exactement. Exactement, des produits qui changent, du fait main, voilà, on a eu du tout, et la preuve du succès, c'est que cette année, donc en décembre, nous avons accueilli quand même 38 artisans avec des produits, donc des bougies, de la bière locale, du fait main, des objets éco-responsables, aussi de la pâtisserie. Donc ça, c'était donc le mois de décembre, et effectivement, en fait, on fait aussi un lien avec la ville de Taverny. Nous avons organisé, donc cette année, pareil, ça va être la troisième année consécutive, ce qu'on appelle un forum de l'emploi, en lien donc, avec, avec la ville de Taverny.
Oui, puisque c'est un lieu où les gens se retrouvent et viennent facilement.
Oui, effectivement, comme je disais en début de l'émission, ce qui est intéressant, c'est aussi de surprendre nos clients, parce que parfois tu viens avec une idée en tête, par exemple, de t'acheter, je sais pas, un pyjama, et tu peux croiser une association qui te parle du cancer du sein, voilà, typiquement, et du coup tu peux t'informer sur ce sujet super important. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que nous sommes vraiment un lieu d'échange où en fait tu peux te laisser surprendre, tu peux apprendre des choses, tu peux tester des nouvelles expériences, et c'est ça notre objectif.
C'est bien. Vous avez évoqué le Covid. Quel a été l'impact sur la galerie lorsqu'il y a eu la crise sanitaire?
Alors, la crise sanitaire, ça a été une nouveauté pour tout le monde. On a tous appris, en fait, à marcher avec, et c'est vrai que particulièrement, c'est vrai que nous on a vécu quand même trois fermetures, surtout avec le premier Covid. Bon, ça a été quand même une période compliquée. Il y avait juste Auchan, l'hypermarché qui était ouvert à cette époque-là. On a dû inventer des méthodes, comment gérer les flux, Donc oui, ça a été une période où tous les jours
vous réinventiez le monde.
Exact,
chaque jour.
Oui. Donc c'est vrai qu'on est content là depuis 1er janvier 2022 de revivre. J'ai l'impression qu'on est revenu dans un quotidien normal, et ça fait plaisir, et surtout je vous assure que ça nous a fait énormément plaisir de retrouver nos clients le fameux 19 mai quand nous avons réouvert, et c'était franchement, ça a été un moment riche en émotions.
Oui.
Et la preuve, comme on dit, que c'est pas internet qui fait tout, parce que du coup
Absolument.
Nos clients, on leur a beaucoup manqué, et voilà, donc on est content d'être là pour eux et de les retrouver.
Bravo Alexandra Merlin. Alors vous avez une actualité à nous annoncer avec l'ouverture des dernières boutiques.
Oui, alors dernière boutique en date qui a ouvert en décembre, donc c'est Etam Lingerie, une très jolie boutique. Et après, pour les gourmands, il y a le comptoir de Mathilde qui a ouvert, voilà, et on espère, comme je vous disais, courant cette année, des nouvelles ouvertures voiture, voilà, et j'espère aussi un très joli parking. Voilà.
Très bien, très bien. Vous avez aussi, j'ai noté la boutique La Merveille.
Oui, c'est une petite boutique très sympa avec des petits bijoux, des petites idées de cadeaux. Où c'est typiquement la boutique, on rentre, on a du mal à sortir sans acheter une petite boucle d'oreille.
Très bien. Donc en somme, vous êtes une directrice de galerie heureuse.
Oui, je suis heureuse et j'ai la chance aussi d'être entourée par des très 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 belles équipes et je salue aussi la directrice Geneviève Tari, la directrice d'Auchan, avec qui on fait une très belle équipe toutes les deux, deux femmes.
Oui, complémentaires.
Oui, bravo. Exactement.
Merci beaucoup Alexandra Merlin, donc directrice de la galerie commerciale des Portes de Taverny. Merci de nous avoir éclairé sur cette grosse responsabilité de gestion de galerie commerciale. Et puis félicitations pour votre management dont on a l'impression que c'est une main de fer dans un grand velours. Hein.
Écoutez, dans tous les cas, je vous attends dans le centre commercial. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes
sur place. Très bien. Merci Alexandra.
Merci Jacqueline.
On fait une pause et à tout de suite pour la suite de l'émission.
J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses « je t'aime ». Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir. Pour elle et moi, et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle.
Je rêve aussi.
Je n'ai rien fait pour ça.
J'ai mal dormi.
Elle n'est pas vraiment belle. Moi,
en Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
J'ai encore rêvé d'elle par le groupe Il était une fois, que l'on écoute toujours très volontiers. Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur Radio IDFM Radio, une émission rythmée par les différentes activités de mes invités, toujours en ma compagnie. Alexandra Merlin, directrice de la galerie commerciale Les Portes de Taverny, située à la sortie numéro 4 de l'A115 en venant de Paris. Philippe Bloquet, fondateur et CEO de PeopleSphere, plateforme qui relie l'ensemble des logiciels RH au sein d'un même écosystème et impliquée dans les avancées de la RSE. Et Pascale Revon, fondatrice et dirigeante de C'est trier, simplifier votre espace, des actions en faveur d'une démarche d'économie circulaire et donc très écologique. Et sans plus tarder, je me tourne vers vous, Philippe Bloquet. Alors d'un côté, une RH en pleine expansion, de l'autre, la création constante de multiples logiciels à des fins différentes. C'est le pari réussi d'une plateforme PeopleSphere, reliant l'ensemble des logiciels RH, donc comme je l'ai dit, au sein d'un même écosystème. Quelques mots aussi sur votre parcours, Philippe Bloquet, avant de nous parler de votre plateforme.
Oui, alors moi je suis un peu par hasard, je dirais comme Alexandra, tombé dans le monde des RH il y a 25 ans.
D'accord.
Je suis un petit peu plus âgé. J'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique à la base,
oui.
Donc pas tout à fait effectivement dans le même domaine. Je suis tombé dans les RH du fait de ma passion, l'aéronautique, où un jour un projet mixait un petit peu les deux, l'aviation et les ressources humaines. Et puis j'ai évolué au sein de ce milieu pendant un certain nombre d'années, étant à la fois dans des côtés internes aux entreprises, avec des postes à responsabilité RH, des RH, responsable formation, et puis j'ai basculé ensuite vers des fournisseurs de services RH. J'ai passé quelques années dans une société américaine dans la Silicon Valley, où qui était justement en charge de tout ce qui est le talent management. Et puis de fil en aiguille, c'est comme ça qu'en 2010 j'ai décidé de créer ma première entreprise, qui était Neosphere, qui était une entreprise dans le domaine du conseil en ressources humaines, intégration de systèmes, entreprise que j'ai revendue en 2019 au groupe Soprasteria. Et puis, cette année 2019, c'est l'année qui a marqué aussi le lancement de notre plateforme PeopleSphere.
D'accord.
En l'occurrence, sur le marché français. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et pour rebondir sur ce que vous évoquiez, effectivement, donc nous, on est dans le marché du ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire le business qui parle business. Nos clients sont des directeurs des ressources humaines. Et si on reprend l'historique du monde des RH, l'historique des technologies, aujourd'hui, on parle beaucoup de cloud.
Oui.
Donc tout est dans le cloud aujourd'hui. Et les RH n'ont pas échappé à cette évolution. Et le cloud a deux effets, je dirais, concomitants. Le premier, c'est que c'est simple, parce que il n'y a pas besoin de s'occuper des serveurs, donc n'importe qui peut créer avec une bonne plateforme, un outil.
Les tâches répétitives sont faciles.
C'est assez facile de créer un outil dans le cloud, encore plus facile aujourd'hui avec des outils même d'automatisation qui vont permettre de créer quasiment automatiquement des logiciels. Et puis le deuxième effet, et c'est sur celui-ci que PeopleSphere a rebondi, c'est la multiplicité des acteurs. On est dans un marché qui est extrêmement changeant. Le monde des RH évolue très très vite. On a déjà parlé du Covid et je pense qu'on en reparlera. Mais par exemple, le Covid a vu l'émergence d'un certain nombre de nouveaux outils informatiques sur, par exemple, la gestion du flex office. C'est-à-dire comment maintenant je gère le mode hybride, comme on évoquait tout à l'heure, à des commerces où les gens font en ligne, du shopping en ligne et puis font du shopping sur site et ils vont trouver des intérêts particuliers. Les collaborateurs aujourd'hui, c'est pareil. Ils travaillent un peu sur site, ils travaillent un petit peu en ligne aussi.
C'est ça, nouveaux outils, mais aussi nouvelles formes de travail. Oui.
Donc, de ce fait, de ce foisonnement, est apparu un peu la nécessité d'orchestrer tout ça, parce que les responsables RH se retrouvent en face d'une quinzaine, une vingtaine d'outils à gérer dans leur organisation, des outils qui ne se parlent pas, des tâches à refaire à droite, des tâches à refaire à gauche, et c'est ainsi qu'est née l'idée de PeopleSphere, qui est une plateforme d'orchestration et qui va permettre aux responsables RH, à travers un outil unique, d'aller choisir des nouveaux outils, c'est-à-dire que si demain ils veulent lancer justement le flex office chez eux, ils ont qu'à aller sur notre place de marché, choisir l'outil qu'on leur propose, on en propose plusieurs d'ailleurs, et puis cette administration sera centralisée, leurs collaborateurs auront un point d'entrée unique, c'est la simplification d'un monde complexe.
Oui. Donc c'est une plateforme, vous avez dû avoir un certain, de la R&D pour assez...
sur un certain temps avant de mettre ça au point ?
Énormément de R&D. Mmh. Hein, on a beaucoup, beaucoup de R&D. En gros, l'idée a commencé à germer en 2015-2016. Mmh. Donc, de 2015 à 2019, pratiquement, c'est que de la R&D. Quelques clients pilotes pour tester un petit peu l'ensemble du concept. Donc, énormément de R&D sur cette phase initiale. Et puis encore beaucoup de R&D au jour d'aujourd'hui. Hein, on est une société, on est à quasiment pratiquement 40-45% de nos dépenses sur la R&D. Donc on est très très consommateur de R&D, bah parce qu'aujourd'hui il faut intégrer des choses comme l'intelligence artificielle pour toujours aller un petit peu plus loin dans l'automatisation de ces processus. Ouais.
Alors une question que je voulais vous poser lorsque vous nous avez expliqué que vous étiez dans la Silicon Valley et puis que vous avez eu envie de créer votre première entreprise, la Neosphere. Est-ce que c'est parce que vous aviez constater des manques, enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie quand même de créer cette première société ?
Alors, je crois que la première chose, c'est plus basique. Mm-hmm. C'est vraiment envie de créer quelque chose depuis, ça faisait 20 ans que j'avais envie de créer une boîte.
Oui, c'est ça, vous aviez envie d'être entrepreneur.
Et à un moment donné, il faut l'idée.
Oui.
Bon. Effectivement, ayant baigné dans la Silicon Valley et dans ce qui a déjà été l'émergence du cloud à cette époque-là, m'est venue un petit peu l'idée, étant moi-même fournisseur de solutions pour le compte d'entreprise, j'ai bien constaté qu'il y avait besoin d'accompagnement. M'est venue l'idée, effectivement, de créer une offre qui permettait aux entreprises d'être accompagnées de manière satisfaisante, et deux, l'idée de PeopleSphere commence à germer. Ce que les Américains appellent le best of breed, c'est-à-dire le meilleur de la crème. Mmh. C'est le principe d'avoir des logiciels qui sont très bons sur ce qu'ils font, mais ce qu'ils font étant limité. Et cette orchestration commençait déjà à émerger. On commençait à sentir qu'il y avait quelques problèmes. Et donc, l'idée de PeopleSphere était là déjà en 2010. Très enfouie. Mais c'est comme ça que j'ai créé, je me suis lancé à un moment ou à un autre et je me suis jeté à l'eau, quoi.
Une entreprise que vous ne regrettez pas, je pense, aujourd'hui d'avoir créé.
Non, pas du tout. Non,
oui.
Absolument. C'est une très belle aventure.
Oui. Alors, quand on entend ressources humaines, on pense tout de suite, on est plutôt sous l'angle des processus de recrutement. Or, aujourd'hui, ça va bien au-delà.
Oui, oui, clairement. Alors, aujourd'hui, le recrutement, et sur les dernières années, a été le point de départ d'un processus. Quand on prend le cycle de vie du collaborateur, effectivement, ça commence par le recrutement. On a beaucoup parlé ces derniers temps de difficultés de recruter.
Oui,
c'est encore le cas aujourd'hui, même si probablement un certain nombre de ces tensions vont s'amenuiser dans les mois qui viennent. Donc le recrutement revêt une importance particulière. Mais le recrutement, c'est pareil, c'est un milieu qui a énormément changé. Entre la manière dont on recrutait il y a 10 ans, vous aviez un processus qui prenait 1 heure ou 2 heures, où il fallait remplir 25 questionnaires, faire 10 interviews. Tout ça, c'est plus du tout adapté au monde d'aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui, elle est dans l'immédiateté, dans la réactivité. Donc ces processus ont beaucoup changé, il faut beaucoup chasser. Hein, c'est-à-dire le moment où on attend que les gens viennent sur son site et postuler, oui, ça marche encore un petit peu, mais si on ne fait pas de la chasse active, si on n'a pas des équipes qui vont chercher les talents là où ils se trouvent, c'est compliqué. Donc c'est un monde qui est très important, qui a évolué, mais ce n'est que le début. Et c'est devenu de moins en moins le plus important, parce que derrière, comme ça coûte très cher et que c'est très compliqué de recruter, il faut garder les gens qui sont chez soi. Et donc il y a toute la dimension talent management, développement des collaborateurs, qui revêt encore une importance plus importante en ce moment.
Oui, parce que quand vous dites qu'il faut arriver à fidéliser ces employés, moi j'ai noté que 523 000 Français ont démissionné au premier trimestre 2022, donc un chiffre qui illustre la difficulté que rencontrent les entreprises à fidéliser leurs clients, leurs salariés.
Tout à fait, hein, c'est là où je disais que le recrutement c'est en train de changer dans les jours qui viennent. On a eu ce qu'on a appelé la grande démission. Une vague post-Covid probablement parce que les gens pendant le Covid se sont retrouvés un petit peu enfermés, prisonniers. C'était pas le moment de tenter l'aventure ailleurs, et donc il y a eu un petit phénomène de lâcher les brides à la sortie du Covid. Donc il y a eu cette grande vague de démissions, tous les gens qui attendaient pour changer de job. Ça va stagner très clairement, c'est quelque chose qui est moins important. Et puis par contre, ça prouve qu'effectivement, pour garder les collaborateurs, il faut en prendre soin. Et ça passe par beaucoup de choses, surtout que les aspirations des jeunes ont beaucoup changé. Aujourd'hui, des choses comme l'équilibre vie professionnelle, travail, c'est une question qu'on ne posait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est primordial, c'est au cœur de toutes les entreprises que de trouver des mécanismes pour préserver la vie des collaborateurs et leur santé, si je puis dire.
Oui, puisque, comme vous venez de le dire, les attentes des salariés concernant leur vie professionnelle ont évolué. J'ai noté également que aujourd'hui un Français sur 3 qui n'a pas accès au télétravail envisage de changer de métier. Est-ce oui. que ce sont des chiffres
Alors,
que vous constatez?
Alors, je ne sais pas pour la valeur des chiffres, statistiquement parlant. Par contre, il est clair que ce qu'on constate régulièrement dans les entretiens d'embauche, c'est une question qui est systématique. Aujourd'hui, il n'y a pas un collaborateur qui demande « Est-ce que vous faites le télétravail ?»
Oui.
Et c'est rédhibitoire. Dans nos métiers, attention, oui, nous sommes oui, dans des métiers oui. du logiciel, nous sommes dans des métiers qui se prêtent particulièrement bien au télétravail, mais c'est effectivement systématique.
Oui,
absolument.
Oui. Et là où il y a un vrai bouleversement dans les ressources humaines, c'est que dans ce contexte tendu hein, sur le marché de l'emploi, la balle est dans le camp des candidats. Et j'ai relevé une phrase qui, en réalité, ce sont eux qui font passer des entretiens aux entreprises, plus que le contraire.
Alors c'était déjà un petit peu vrai avant. Il y avait déjà une petite un petit côté, bah, il faut séduire le collaborateur, lui donner envie de nous rejoindre. C'est encore plus valable au jour d'aujourd'hui. Et en particulier, on entend beaucoup, quand on parle des jeunes générations, de donner du sens. Mmh. Hein, ils cherchent beaucoup du sens à ce qu'ils vont faire. Donc ça, effectivement, dans les entretiens, c'est important. C'est important d'essayer de montrer quel va être leur rôle au sein de l'entreprise, le sens de leur mission, pour valoriser cet emploi, en l'occurrence.
Alors, on revient sur PeopleSphere. En 2021, vous avez levé 8,5 millions d'euros pour accélérer la croissance et puis poser des jalons pour vous installer aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Bon, bah, on parlait de la R&D tout à l'heure. Oui. Bah oui, c'est la R&D est très consommatrice de cash. Donc effectivement, on a levé des fonds pour accélérer le développement du produit et puis aussi pour commencer à mettre un pied à l'international. Et donc on a ouvert une filiale à Atlanta en janvier de l'année dernière. Tout à fait.
Un retour aux sources. Enfin, Atlanta n'est pas dans la Silicon Valley, mais
alors voilà, c'est un retour sur
Pourquoi
le même
Atlanta,
pays quelque
justement.
Part. C'est pas le même fuseau horaire, parce que on était aussi soucieux quand même dans une gestion d'une entreprise comme la nôtre de pas avoir des gens qui soient à 9 heures de décalage de Paris. Donc c'est pour ça qu'on a choisi aussi un site qui était à 6 heures de décalage simplement, c'est plus facile à gérer.
Bien sûr.
Voilà, et qui est assez central. Atlanta est assez central aux États-Unis, quoi.
Alors, il y a une question que je voudrais vous poser quand même, parce que cette technologie d'interconnexion est certainement une avancée, hein, c'est clair, mais est-ce qu'elle n'a pas des inconvénients d'un point de vue humain?
Alors, bonne question, mais bon.
Difficile d'y répondre.
Non, bah je vais vous dire ce que j'en
pense.
Parce que
ce sont des algorithmes. Hein, donc
alors, ce sont des algorithmes. Donc, pour moi, justement, ça répond d'abord à un besoin qui est ce besoin de faire en sorte qu'il y ait du lien entre tous les outils. Donc c'est vraiment de l'avantage. C'est simplement la prolongation de. Si on prend la technologie informatique, il y a quelques années, on parlait de microservices. C'est de dire aussi que quand quelque chose est trop gros à gérer, ça devient compliqué et ingérable. Donc de toute façon, ce principe de dire j'ai des petits ensembles qui sont hyper performants dans leur domaine, c'est quelque chose de fort. Mais si vous n'avez pas la connectivité, tout tombe. Donc la connectivité, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce qu'il y a des inconvénients à la connectivité? Je dirais que non. Aujourd'hui, justement, la connectivité, c'est un facilitateur. Et c'est ce qui va permettre à ce monde du cloud de vivre comme il faut. Parce qu'autrement, l'alternative pour un client, c'est quoi? C'est de se dire, je vais prendre un mastodonte qui fait tout. Et là, bah, vous tuez toute la créativité qui est tout autour. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour toutes ces startups, toutes ces entreprises qui se sont créées, qui sont hyper pointues, mais qui ne rentrent pas forcément dans le moule du mastodonte. Donc, nous, on l'a créé parce qu'on y voit que des avantages.
Oui. Alors, peut-être, mais ce n'est pas le sujet, un souci pour l'interconnectivité, c'est la cybersécurité.
Alors, la cybersécurité, elle est partout. Donc, de manière générale, nous, on a des process de cybersécurité qui sont extrêmement forts. Comme on est portail d'entrée, on se doit effectivement de faire en sorte que la porte d'entrée soit la plus sécurisée possible. Donc, ça, c'est une réalité. On fait, par exemple, on a aujourd'hui dans le monde de la sécurité, il y a ce qu'on appelle des groupes de hackers éthiques. Ça, vous avez ceux qui sont pas éthiques et dont on entend parler, hein, qui produisent des ransomware.
Sur les hôpitaux,
Et puis, vous avez ce qu'on appelle les hackers éthiques. Donc, ce sont des groupes qui existent. Il y a des sociétés qui sont aussi spécialisées là-dedans. Donc, ce sont des gens qu'on fait intervenir tous les ans de manière systématique. Alors, d'un côté sur des campagnes, de l'autre côté en temps continu. Et qui sont des gens dont le seul objectif va être essayer de trouver les failles de notre système en allant le bombarder, le hacker, comme le font les vrais hackers, de manière à s'assurer effectivement que la sécurité est présente. Puis après, c'est la redondance. Et puis, c'est aussi surtout un sujet qui est précieux chez nous, c'est l'humain.
Oui.
Parce qu'on s'aperçoit quand même que dans énormément de cas, pour ne pas dire la majorité des cas, la faille, elle est d'abord humaine.
C'est ça.
Elle est un PC qui va rester allumé, sur lequel on va pouvoir venir, et c'est d'autant plus vrai quand vous êtes dans une open space. Mm-hmm. Bon, bah, chez PeopleSphere, si vous laissez votre PC ouvert, vous êtes corvée de croissants le lendemain matin. C'est systématique.
Oh, ça va, c'est pas encore trop grave.
Alors, bah non, évidemment, on n'est pas fouet, mais voilà, c'est des petits
jeux. Ça commence par les croissants.
C'est des petits jeux, mais tout le monde est sensible, et puis, dans certains cas, c'est le petit jeu d'aller piéger le copain, et, en lui demandant, tiens, bah voilà, t'amènes les croissants parce que je t'ai piégé. Donc, des petits réflexes qui se créent comme ça et qui font que ça évite effectivement le problème de sécurité. Je passe sur tous les badges, je passe sur tous les environnements spécifiques que nous avons développés pour que tous nos collaborateurs aient accès à des PC, qu'ils soient des PC PeopleSphere, sécurisés et tout ce genre de choses. Mais effectivement, la cybersécurité est un point crucial.
Mm-hmm, bien sûr. Alors donc, la RSE fait partie désormais de la politique de nombreuses entreprises, soucieuses de respecter, hein, on l'a dit, les principes de développement durable. Le baromètre RSE 2022 dévoile des avancées dans le domaine, mais également des difficultés. On en a parlé un tout petit peu avant l'émission, notamment liées à l'engagement des collaborateurs. Et plus une entreprise est grande, moins... Alors moi, c'est ce que j'ai relevé. Moins ces salariés se sentent peut-être concernés par les démarches RSE.
Alors,
vous confirmez ?
Alors,
pas tout à fait.
Je pense que c'est en train de changer.
Ouais.
Je pense que très clairement, c'est en train de changer. Je pense que peut-être que plus que la taille, je parlerai de la moyenne d'âge,
oui,
de la sensibilité. Enfin, inévitablement, les générations jeunes vont dans ce sens, sont demandeuses dans ce sens.
D'accord. C'est pas les plus âgés qui ont, alors, avec l'expérience.
J'ai pas dit que les plus âgés sont...
sont moins concernés,
ils sont moins moteurs probablement, mais ils ne sont pas forcément des freins. Nous, on a dans nos équipes, je pense à un membre du comité d'entreprise, bon, bah, c'est pas le plus jeune, et pourtant, il est extrêmement actif sur la partie, je dirais, RSE. Mais en tous les cas, il y a une demande très forte. Il y a une demande très forte de nos collaborateurs jeunes de faire attention à ces aspects économiques, sociaux et environnementaux. On a aussi maintenant ce qu'on trouve de plus en plus des actionnaires.
Oui.
Nous, nos actionnaires, enfin parmi nos actionnaires, on a le groupe Swen qui est très orienté responsabilité sociale, et puis les clients. Dans les appels d'offres, dans ce genre de choses maintenant, il est extrêmement fréquent que le client ou le prospect à ce stade vous demande d'expliciter votre politique RSE.
D'accord, oui, ils s'inquiètent de la démarche.
Oui, tout à fait.
Donc vous essayez de sensibiliser votre personnel à travers des enjeux, des engagements pragmatiques, peut-être les croissants déjà, pour commencer. Les autres engagements.
Alors, oui, nous on a créé en fait un groupe de travail au sein de PeopleSphere. Il y a 13 personnes qui sont dans ce groupe de travail sur nos différents sites d'ailleurs, qui ont en charge effectivement d'identifier les axes d'amélioration sur la RSE. C'est ce groupe de travail qui a pas mal travaillé à la mise en place de la prime mobilité au sein de PeopleSphere, faire en sorte que tous les déplacements de PeopleSphere soient régis dans des contraintes particulières. C'est eux qui nous ont poussé à ce que le prochain séminaire soit un séminaire accessible en train et non plus en avion,
oui,
comme on avait pu le faire il y a quelques années, par exemple. Donc, ils sont
Atlanta, ça va être difficile quand même.
Comment ?
Pour aller à Atlanta, ça va être difficile.
Pour aller à Atlanta, ça va être difficile. Ça, je vous le cache pas, mais on fera pas le séminaire à Atlanta. C'est-à-dire qu'en Atlanta, on va faire déplacer une ou deux personnes. On se contentera pas de faire déplacer nos plus de 110 collaborateurs sur Atlanta. Donc, effectivement, on travaille pas mal sur ces aspects-là en termes de RSE, quoi.
Alors, un des baromètres de ces avancées en RSE, c'est le bilan carbone. Mmh. Et vous félicitez d'avoir un pourcentage de bilan carbone.
On a un bon ratio, donc c'est comme tout. Hein. Le principe, il est valable pour tout. Quand on veut progresser, il faut savoir d'où on part. Et pour savoir d'où on part, il faut mesurer. Donc c'est effectivement, on a fait un bilan carbone avec Hello Carbone, qui consistait à savoir un peu où était positionnée la société. Il en est ressorti d'ores et déjà sur la première enquête, hein, on était à 308, je crois, en tonnes équivalent pétrole, qui était plutôt pas mal. On était plutôt 35%, je crois, mieux que la moyenne des entreprises dans notre secteur.
D'accord.
Donc on était plutôt pas mal. Mais ça aussi fait ressortir un certain nombre de points d'amélioration. Je pense en particulier sur tout ce qui est la gestion des ordinateurs, secteur, puisque le revers de la médaille de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on est plutôt innovant.
Et
donc,
oui.
En gros, on change d'ordinateur quasiment tous les deux ans chez PeopleSphere. Hein, 2 ans de vie, un ordinateur, c'est presque un peu la limite. Et ça, c'est très mal vu aujourd'hui d'un point de vue RSE. Quoi.
Oui, puis toutes les connexions par mail, tout ça, c'est
exactement.
Aussi...
Alors oui, après, il y a tous les serveurs, il y a tout ça. Donc là, on a une politique, on a un hébergeur qui est certifié, lui, 50 001 et 14 001, qui sont deux normes de respect de l'environnement. Donc ça, c'est tout notre système d'hébergement des serveurs qui est éco-responsable. Et puis maintenant, on a mis en place, donc par rapport à cet élément qui était remonté sur les PC, on avait deux choix, soit on gardait les PC 5 ans, mais là on avait des enjeux de performance et des enjeux qui étaient forts pour nous, soit on a mis en place avec une organisation à but non caritatif, la reprise et le reconditionnement des PC.
D'accord.
Donc désormais, on a une entreprise qui reprend systématiquement nos PC et les reconditionne pour les remettre sur le marché.
Très bien. Une info qui doit faire très plaisir à Pascal.
Oui. Tout à fait.
Alors, je voulais vous poser aussi une question à propos des enjeux RSE, puisque on sait que ça a été mis en place par l'Union européenne. Hein. Ouais. Est-ce que c'est les mêmes contraintes aux États-Unis?
Alors, les États-Unis ont une approche sur beaucoup de choses très différentes de l'approche européenne. Mmh. Ils ont une approche très peu contrainte. Donc c'est pas du tout la même, il n'y a pas de contraintes, il y a personne dans un appel d'offres aux États-Unis vous demande la RSE. Par contre, ils ont une approche valeur ajoutée.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes, c'est ce que faisaient les entreprises de la Silicon Valley, si vous êtes bon, si vous avez des actions dans le RSE, vous allez faire savoir. Mmh. Et ça va devenir un avantage compétitif. C'est toujours comme ça qu'ils se positionnent plutôt les Américains. Pas de contraintes. Mais par contre, on met en valeur, et du coup, ils bougent quand même. Et donc, il y a énormément d'actions qui sont faites au niveau économique. On voit bien que les voitures électriques, avec ce genre de choses, mais sous un angle complètement différent. Mm-hmm. C'est un angle de, je vais produire de la valeur, je vais me différencier de mes autres compétiteurs, parce que j'ai tel et tel élément. Quand il y a eu le Covid, on a croulé sous les annonces des boîtes américaines, qui, je pense, regrettent un peu, pour certains, je pense, leur déclaration au jour d'aujourd'hui, sur qui fera le mieux, qui fera le plus, dans le domaine du télétravail, du remote office. C'est ce genre de choses.
Donc finalement, pour vous, un atout supplémentaire pour vous installer à l'international.
Très clairement. Ça, et puis alors c'est pas tout à fait la RSE, mais quelque part un petit peu, tout ce qui est protection des données, les enjeux de sécurisation des données et tout ça. Quand on arrive aux États-Unis, qu'on est européen, qu'on a mis en place tout ce qui est autour de la RGPD, on a un avantage certain, puisque ils savent qu'a priori, leurs données sont bien gérées et bien cloisonnées.
Mm-hmm, très bien. Donc, dernière question, Philippe Bloquet, si des auditrices ou des auditeurs veulent faire appel à vos services, que faut-il faire?
Le plus simple, c'est notre site web, donc peoplesphere.fr. Attention, peoplesphere avec un S,
oui,
puisqu'il s'agit bien de plusieurs sphères.fr. Il y a une petite fiche contact et il suffit de renseigner la fiche contact pour que derrière, quelqu'un rentre en contact avec vous.
Et donc, si vous aviez des besoins à exprimer, quels seraient-ils?
Alors aujourd'hui, nous, on est dans une phase de croissance assez forte et en petite nouveauté, on est en pleine levée de fonds.
Oui.
Pour continuer à accélérer, c'est un petit peu le métier. Malgré, les conditions environnementales qui sont drastiquement rigidifiées depuis un an, nous sommes en levée de fonds pour poursuivre à nouveau le développement de la plateforme et cette fois-ci, aller peut-être même chercher d'autres marchés que le marché américain.
D'accord, vous avez déjà des vues au niveau de cette levée de fonds?
On a un peu plus que des vues.
Ouais, très bien.
Voilà, un peu plus que des vues, ça avance.
Vous viendrez nous en reparler la prochaine fois. Merci beaucoup, Philippe Bloquet, fondateur et CEO de PeopleSphere, au pluriel. Merci pour votre témoignage et la présentation très intéressante de votre entreprise. Est-ce que vous, puisque la forme de votre entreprise, votre format économique, c'est une start-up?
Alors, on n'est plus
aujourd'hui,
vraiment
plus
dans une start-up.
Oui.
Quand on
vous
passe, on serait plutôt dans une scale-up.
Oui.
Voilà. Si on était, on est une société, une SaaS, en termes de structure juridique, et on est effectivement plutôt une scale-up.
Et vous visez la licorne?
Alors, on vise plus la licorne.
Non.
Parce que,
Vous l'avez visé pendant un temps.
Non, la raison, d'ailleurs, aujourd'hui, on vise plutôt le centaure. C'est pour les licornes, si vous voulez. Et on a vu tellement de choses dans le passé qui sont malheureusement, où on a vu des sociétés valorisées 1 milliard et qui faisaient quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Le centaure, c'est les boîtes qui font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est ce qu'on vise, oui, tout à fait.
Très bien. Bon, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci, Philippe Bloquet.
Merci.
Il est temps de faire une nouvelle pause et avec un peu de musique, on se retrouve juste après.
could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. Make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. Cause I'm about to make a scene. Double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up. Gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. When I do my walk, walk, my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. You get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do.
En Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct et ce matin, respect du bilan carbone, que ce soit pour la gestion d'une galerie commerciale, l'innovation technologique dans les ressources humaines, l'organisation et l'optimisation d'espaces pour particuliers professionnels. Tels sont les thèmes de l'émission, avec pour en parler Alexandra Merlin, directrice de la galerie commerciale Les Portes de Taverny, située à la sortie numéro 4 de l'A115 en venant de Paris. Philippe Bloquet, fondateur et CEO de PeopleSphere, plateforme qui relie l'ensemble des logiciels RH au sein d'un même écosystème et impliquée dans les avancées de la RSE. Et Pascal Revon, fondatrice et dirigeante, de Tsetrier Simplifier votre espace, des actions en faveur d'une démarche d'économie circulaire et donc écologique. Et donc, qui mieux que vous, Pascal Revon, pour parler également de bilan carbone? Donc, je vous laisse nous rappeler votre parcours et votre activité, Pascal.
Alors le parcours, comme vos deux autres invités, j'étais pas spécialement destinée à la base à cette activité qui, de toute façon, n'existait pas il y a quelques années, qui est une nouvelle activité professionnelle. Et donc je suis juriste spécialisée en droit immobilier.
Oui.
Et
oui.
D'ailleurs, je suis revenue à mes premiers amours, juriste un jour, juriste toujours. Mmh. Et maintenant, je donne des cours de droit immobilier. Actions immobilières pour les futurs professionnels de l'immobilier. Voilà, en parallèle avec mon activité.
Alors, Tsetrier, simplifier votre espace. Expliquez-nous ce nom de l'entreprise.
Alors, ce nom de l'entreprise, j'ai pas voulu donner mon nom parce que ça se fait beaucoup de donner mon nom directement, mais je voulais justement que ça englobe un petit peu plus. Donc, d'entrier, ça c'est la base, en fait, pour savoir ce dont nous disposons chez nous, pour savoir ce dont nous avons réellement l'utilité et ce qui est superflu, il faut commencer par trier. Donc voilà le T de C, trier. Mmh, mmh, mmh. Et puis le but de tout ça, en fait, c'est de se simplifier la vie, c'est de simplifier les espaces qui sont autour de nous. Voilà. l'origine de Tsetrier, simplifier votre espace.
C'est ça, libérer son espace pour libérer son esprit.
Ben voilà, vous avez déjà tout dit. Et tu sais, en fait, à la base, mais on m'avait dit, oh, ça fonctionnera peut-être un peu moins, mais je pense que j'y reviendrai par la suite. Ça signifie aussi, c'est l'acronyme de tout simplement essentiel.
Ah oui, très bien.
Donc, gardez chez vous et dans vos entreprises ce qui est essentiel et libérez-vous du superflu.
Alors, un métier qui peut regrouper plusieurs appellations, hein, home organizer, expert en organisation, coach en rangement. Vous situez dans quel domaine plus précisément, Pascal?
Alors, dans les trois dénominations, home organizer, coach en rangement, expert en organisation, révélatrice d'intérieur, quand je viens chez vous, chez les particuliers, même pour les sociétés, en fait, je révèle le potentiel qui peut parfois être oublié dans certaines maisons, dans certains appartements, dans certains locaux professionnels où on passe beaucoup de temps et on ne voit plus vraiment comment sont nos locaux. Mmh. On va donc faire du tri, du désencombrement. Et puis parfois également, ça va être une optimisation de l'espace. Vous pouvez avoir des bureaux, des locaux. On ne sait pas trop si ça sert de salle d'archivage, de bureau, de salle de réunion. Et donc, on va optimiser cet espace et on va redéfinir cet espace pour que pour chaque espace, on sache bien où nous en sommes.
Donc, c'est un métier qui se développe, se structure, se professionnalise. Et il existe aujourd'hui une fédération dont vous faites partie?
Oui, tout à fait. Je suis bénévole à la FFPO, la Fédération francophone des professionnels de l'organisation, qui est en train d'émerger, de se développer. Et comme nous avons grandi depuis quelques années, nous avons pu rejoindre les grosses organisations et fédérations internationales, et notamment la fédération américaine, canadienne, et puis une grosse fédération aussi en Italie, parce qu'il faut savoir que aux États-Unis, ils sont plus de 6 000. Alors évidemment, la taille du pays n'est pas la même. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine, mais ça se développe très rapidement.
Est-ce que c'est cette fédération qui avait fait cette expérience là avec plusieurs foyers, ou non, c'est plutôt
Avec l'ADEME, l'agence pour la transition écologique. Alors, c'est pas la fédération, pardon. Mais par contre, l'ADEME a été voir des professionnels de l'organisation, parce que nous sommes en France, donc nous sommes professionnels de l'organisation, mais ce thème professionnel de l'organisation, c'est pas trop ce qu'on organise. Donc organisatrice ou organisateur d'intérieur, on voit un petit peu plus ce dont on parle. Donc l'ADEME a effectivement fait appel à des membres de la Fédération francophone des professionnels de l'organisation pour monter une grande opération d'envergure, il y a un an et demi. Ce qui prouve bien que si l'ADEME se mobilise. Voilà, avec des professionnels de l'organisation pour la transition écologique et pour voir comment on peut fonctionner dans notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel intérêt, il y a un réel besoin, que ça soit pour les particuliers ou les professionnels.
Alors moi, je l'ai déjà dit, mais je le redis, dans cette opération, et je vais vous poser une question, Philippe et Alexandra, il y a la réalité des paires de chaussures. Les 21 foyers estimaient en moyenne posséder 16 paires de chaussures, et ils en avaient en réalité 29. Alors Philippe Bloquet, vous savez combien vous avez de paires de chaussures ?
Alors définitivement pas 29. Moi, je suis un homme. Je pense que c'est un petit peu différent.
Oui, mais je crois que hommes et femmes, confondus.
Oui. J'en ai définitivement moins de 10.
Parce que les hommes en possèdent en moyenne 20 alors qu'ils pensaient en avoir 8 paires.
Oui, okay. Moi je dirais moins de 10, mais comme je vois où elles sont rangées, donc je confirme que je n'ai pas 20 paires, il n'y aurait pas la place pour loger les 20 paires là où elles sont rangées.
Donc, bon. Alors après, si je peux me permettre, il faut tout regarder. Et c'est là justement où on a ce qu'on visualise directement dans notre penderie, dans notre dressing. Et puis on peut avoir une paire de chaussons, on peut avoir une paire de bottes, on va avoir plein d'autres chaussures qui ne sont pas forcément au même endroit, qu'on ne va pas forcément visualiser.
Ah oui,
parfois.
J'ai oublié les tongs.
Et les tongs, ben voilà.
Et vous Alexandra, combien de paires de chaussures?
Malheureusement, je suis une vraie fille de ce point de vue, donc oui, je pense que j'ai quand même pas mal de paires de chaussures, mais je pense que c'est très important d'acheter de la qualité, et je fais quand même pas mal marcher les tout ce qui est cordonnier, parce que comme j'aime bien mes paires de chaussures, j'aime bien les aller de temps en temps chez le cordonnier pour refaire les talons, les voilà.
Alors, Pascal, vos missions sont diverses et variées. Ça peut être le rangement d'une cuisine, d'un garage, d'un logement entier.
Oui.
Vous m'aviez dit qu'il vous fallait des bras.
Alors, oui, exercer. Alors là, on est à l'émission de radio, mais tout le monde pourra regarder. Mais
vos biceps.
Ouais, tout le monde rigole. Hein. Mais oui, en fait, toute la journée, quand même, je me sers de mes bras, de mes abdominaux aussi. Évidemment, c'est très sportif parce que... À chaque fois, il va falloir que ça soit dans une cuisine, dans un garage, dans un bureau ou dans un atelier. La base, comme je vous l'indiquais, et c'est vrai que systématiquement je le répète, c'est vraiment le tri. Et pour trier, bah, il faut tout sortir.
Voilà, et vous accompagnez une de vos missions qui est, je crois, assez importante, c'est vous accompagner au déménagement des personnes qui n'ont pas le temps, comme des personnes âgées qui savent pas par où commencer finalement.
Oui, alors c'est ça. Et moi, je pense que vraiment, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont un projet de déménager, évidemment, si on peut le préparer en avance, c'est formidable. Et si on peut en profiter pour trier avant de mettre tout en carton et d'éviter de ramener tout le bazar dans son nouveau logement ou dans ses nouveaux bureaux, c'est quand même un investissement au départ en temps, mais qui va faire gagner par la suite énormément de temps, d'efficacité, d'énergie. Donc vraiment, le tri.
Ah, toujours le tri.
C'est la vie. Donc on va trier et puis on va commencer en triant à réorganiser, à organiser le futur local, le futur logement. Donc ça va s'adresser à des personnes qui n'ont pas le temps. Des personnes qui ne savent pas comment faire, parce que c'est vrai que la tâche peut paraître énorme, et j'accompagne beaucoup de personnes âgées qui, elles, vont pas avoir forcément, alors elles vont avoir plus de temps, mais ne savent pas forcément comment faire, et puis, comme là, j'accompagne une personne là pendant quelques mois qui a 80 ans, qui n'a pas forcément de bras autour d'elle, et qui, dans son logement, qui fait 50 mètres carrés, a entassé 50 ans de vie.
Oui, c'est ça.
Sans vraiment jeter.
Donc là, vous vous régalez.
Donc il y a beaucoup de travail. Ah, mais alors, moi, c'est vrai que parfois, les gens n'osent pas. Alors, le plus souvent, les gens ne connaissent pas cette activité professionnelle, n'osent pas forcément faire appel au service d'un professionnel ou d'une professionnelle de l'organisation parce qu'ils ont honte. Et c'est vrai que des fois, j'interviens chez des personnes qui n'ont pas ouvert la porte de leur logement depuis des années.
Ah oui, oui, oui.
Et là, c'est pour tous les âges. Que ça soit des personnes de 25, 30 ou 70 ans. Il y a vraiment des personnes qui n'osent pas ouvrir la porte parce qu'elles ont trop honte de leur bazar.
Oui,
et c'est vrai que moi, ce que je leur dis, ce que je dis à tout le monde, c'est plus il y a de bazar pour moi et plus j'aime. Il faut voir, j'ai les yeux qui brillent parce que voilà, je sais d'avance que alors
oui, vous
physiquement,
allez avoir un résultat,
ça va se transformer. Va être voilà, on va révéler. C'est vraiment là où se révèlent les intérieurs et je sais que la personne va se révéler elle-même aussi. Même la personne qui me dit non, je suis incapable de jeter quoi que ce soit, au fur et à mesure qu'on va progresser, que la confiance va être là, on arrive à avoir des progrès formidables et ça marche à tous les coups.
Alors, je voudrais que vous nous citiez, vous nous parliez de vos deux exemples là, lorsque vous avez été appelé par une personne qui venait d'emménager dans un deux pièces.
Oui, alors ça c'est très récent. C'est une jeune femme avec deux enfants qui se séparent et donc qui a loué un sympathique deux pièces. Vraiment, c'est je comprends pourquoi elle l'a pris parce qu'il est vraiment très sympa. On se sent bien dès qu'on arrive, sauf que c'est un deux pièces et qu'une semaine sur deux, il faut loger deux enfants de 10 et 14 ans. Donc là, c'était un logement meublé. Donc il y avait quelques meubles et on a vu avec la personne pour trouver du mobilier modulable qui va pouvoir s'adapter une semaine avec les enfants, une semaine sans les enfants, avec des amis, voir comment on pouvait jouer justement sur l'optimisation de cet espace que chacun trouve son espace, parce que c'est important, surtout pour les enfants, de retrouver leur cocon. Et puis, pour la personne que j'accompagne, savoir où mettre ses propres affaires, parce qu'en plus, c'est une personne qui travaille à domicile, donc il lui fallait un bureau.
Ah oui, voilà. D'autant plus.
Donc, il y avait vraiment là, on est vraiment dans l'optimisation des espaces. Et en très peu de temps, en fait, on a réussi
à trouver la solution.
Oui, tout à fait.
Et alors, donc ça, ce sont pour les particuliers, mais vous agissez aussi chez des professionnels. Donc
pour les professionnels.
Récemment aussi, vous avez accompagné une entreprise.
Oui, alors l'entreprise, il y avait local d'archives, réaménagement des bureaux et dans l'industrie, les ateliers. Et puis comme c'est formidable, en fait, on en découvre tous les jours, et dans le recyclage, dans la revente, c'est vrai que récemment, il a fallu dans cette société que j'aille trouver pour le recyclage des matériaux et de la ferraille chez les ferrailleurs. Donc là, ça a été une sacrée expérience. Là, on va dire que je sors assez souvent de la zone de confort. Mais là, c'était fabuleux. Alors, je vous dis fabuleux parce que ça a été un grand moment de découverte. Et dans la ferraillerie, j'en ai choisi une grande dans le Val d'Oise. C'était très, très organisé.
Ah oui.
Et
oui,
ça m'a beaucoup plu. Évidemment, on va trier chaque métal va avoir un bac particulier. Et même à l'extérieur, où on a l'impression que c'est le bazar, un peu indescriptible. Non, non, c'est super bien organisé à l'intérieur. Donc voilà, après, dans les ateliers, on se dit parfois, on n'a plus de... Alors, c'est pas forcément ces outils-là, mais on n'a pas de tournevis, on n'a pas de marteau. Et puis, quand réellement, on fait le tour de tout l'atelier, qu'on les remet tous au même endroit, on s'aperçoit qu'effectivement, il y en a. Il y en a peut-être pas suffisamment, mais on sait combien il manque. On va pouvoir réparer les outils qui ont besoin d'être réparés, se séparer de ceux qui n'ont plus d'utilité parfois depuis 5, 10 ou 15 ans. Et il faut pas croire que c'est forcément dans les entreprises qui sont pas organisées. Même quand on est organisé, on n'a pas forcément le temps, et je pense que tout le monde est dans les sociétés. C'est ça, ce qui nous manque le plus, en fait, c'est pas l'envie, mais c'est vraiment le temps. Le temps de se dire, allez, on va faire le tour de l'atelier, on va faire le tour des bureaux, on va vraiment voir ce qui est utile, ce qui est superflu, ce qui, voilà, organiser au mieux. Et à ce moment-là, quand il y a une personne qui vient dans votre entreprise, et c'est déjà, on prend rendez-vous et on se garde un petit peu de temps pour faire ça.
Oui, avec un nouveau regard. Un chiffre clé sur le gaspillage, 2,5 tonnes d'objets en moyenne sont accumulés dans les logements.
Oui, alors ça, c'est un chiffre de l'ADEME. C'est vrai que ça fait beaucoup. J'ai regardé plusieurs fois ce chiffre. Alors évidemment, c'est une moyenne. Il y a des logements qui sont plus petits que d'autres. Mais oui, on s'aperçoit qu'on stocke beaucoup de choses. Et ce stockage, en fait, c'est du gaspillage.
Ouais.
Quand on stocke, on ne sait pas ce qu'on a. Parce que le stock, ça peut être dans une boîte, ça va être au fond d'un tiroir. Donc on ne sait plus où on va racheter.
S'aperçoit qu'on l'a déjà.
On l'a déjà, voilà.
Alors, vos besoins, Pascal, c'est de faire mieux connaître votre activité.
Oui, tout à fait. Comme je vous disais, c'est une activité qui est émergente, qui a besoin d'être connue, reconnue. Donc on voit que l'ADEME nous soutient et a fait appel à nos services. Il y a quelques émissions de télé. Alors je ne regarde pas spécialement la télé, mais bon, quand on suit les réseaux sociaux, il y a une émission notamment qui est passée samedi à la télé sur une opération pareille d'envergure, où on a pris une famille de 4 personnes et on a sorti tous leurs objets de leur maison qu'on a étalés dans un hangar. Et c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, on a peut-être un peu trop chez nous. Mais tant qu'on ne le visualise pas, tant qu'on n'en prend pas conscience, on ne le voit pas, en fait. Et c'est pour tout le monde, même pour moi. Parfois, si je mets quelque chose dans une boîte ou si je le mets au fond d'un placard...
On ne se souvient plus.
Ouais. Bah après, on ne s'en souvient plus. Et puis moi, je vais peut-être le savoir, mais les autres membres de la famille ne vont pas le savoir.
Et donc, vous vous envisagez même de donner des cours hein, pour former des futurs organisateurs.
Oui, de mettre en place une formation. Le fait d'avoir formé des futurs professionnels de l'organisation, j'ai suivi une formation. Former, c'est kiffer. Très bonne formation. Très intéressante parce que, en fait, voilà, que ça soit pour le tri et le désencombrement, quand on le fait dans la joie et la bonne humeur, ça fonctionne toujours mieux. La formation, c'est pareil. Enfin, si vous voulez former d'une manière efficace, le cours magistral n'existe plus. Même si en droit, je vous avoue qu'on est un peu obligé d'en faire parce qu'il y a des termes et des notions. On ne peut pas faire autrement.
Forcément.
Donc voilà, il y a des bases. Et donc, ça m'a donné envie de mettre en place une formation pour former les futurs home organizers et office organizers pour les personnes qui interviennent dans les entreprises.
Et on retiendra la formule, les 3M, moins, mais mieux.
Tout à fait. Ah, alors après, il y a moins mais mieux, il y a les 5 R, les 5 S, il y en a plein.
Ah bon, bah écoutez, vous reviendrez une autre fois pour nous parler
avec
de
plaisir.
Tout ça. Merci Pascal Revon, fondatrice et dirigeante de TC, trier, simplifier votre espace, dont l'un des atouts très positifs reste le gain de place chez soi.
Oui.
Merci infiniment. Pour vous joindre, que faut-il faire, Pascal ?
Alors, le site internet également, www.essentiel.tse.fr.
Très bien. Mais écoutez, si des auditeurs ou auditrices ont envie de faire du gain de place chez eux, mieux ranger, débarrasser le superflu, voilà, on fait appel à vous.
Oui, gain de place, gain de temps, gain d'énergie, gain d'efficacité, gain de sérénité.
Oui, c'est ça, parce que ça, on en retire un vrai sentiment de bien-être hein, quand
ah
on
oui,
a.
Ah oui, tout à fait. En fait, au final, l'objectif principal quand on m'appelle n'est pas celui-là. Mais au final, c'est l'objectif qui est atteint.
Très bien. Voilà, l'économie en direct arrive bientôt à sa fin. Juste avant de nous quitter, quelques mots de conclusion. Vous avez une minute chacun pour me faire un petit mot de conclusion, Alexandra Merlin.
Alors, je voulais juste faire une petite précision. C'est
oui.
vrai que du coup, pour présenter le centre commercial, vous avez parlé de l'accessibilité
oui.
via la voiture, donc à travers
oui.
la 115. Et du coup, bah, pour rester dans le cadre de notre sujet RSE d'aujourd'hui, voilà, je tenais juste à préciser que le centre, il est aussi accessible en train avec la ligne H, gare Vaucelles, 15 minutes à pied, très 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 agréable. C'est d'ailleurs ce que moi je fais tous les matins. Mmh. Et après, sinon, il y a la ligne de bus 3. 1010 et sinon nous avons des places pour les vélos donc n'hésitez pas à venir à vélo ou à pied. On vous attend.
Merci, c'est une belle conclusion par rapport à notre bilan carbone. Merci
voilà.
Alexandra. Pascal Bloquet, un mot de conclusion.
Alors moi je trouve qu'il y a un fil rouge un peu à tout ça, au-delà de la RSE, c'est l'organisation quand même.
Oui, oui, c'est vrai. C'est
je trouve
vrai.
Que le mot de la fin, c'est qu'il faut être organisé.
Oui. Hein,
que ce soit pour organiser ses commerçants, pour organiser son tri, pour organiser les logiciels. Voilà, l'organisation est au cœur de l'harmonie, quelque part.
Oui, et une organisation qui permet justement de respecter son bilan carbone.
Absolument.
Absolument. Merci Philippe Bloquet. Pascal Revon, un mot
alors,
de conclusion.
Je ne peux être que d'accord avec l'organisation, évidemment. Quand on organise autour de soi, bah, ça s'organise aussi en soi, parce que c'est ça, en fait. Hein. Quand on se simplifie la vie, quand on simplifie la vie des autres personnes autour de soi, je trouve qu'il n'y a rien de plus utile. Et donc, le mot de la fin, pour moi, pourrait être, ce que vous avez commencé par ça, libérer votre espace pour libérer votre esprit.
Merci, Pascal. Je crois que nous n'en avons pas parlé. Vous étiez à la recherche de partenariats. La dernière fois que vous êtes venu, c'est toujours le cas ?
Oui, toujours le cas de personnes avec qui on pourrait interagir comme des déménageurs, comme les professionnels de l'immobilier, les maisons de retraite. Enfin bon, en fait, il n'y a pas
L'éventail est très large.
L'éventail est très large, en fait, parce qu'on s'aperçoit que dans tous les domaines, on peut avoir besoin d'une home organizer et de mes services.
Mais écoutez, j'espère que votre appel sera entendu.
Merci.
Merci à tous les trois d'avoir été les invités de l'économie en direct et nous avoir fait partager votre parcours et vos ambitions. Merci à vous tous de nous avoir suivis comme à chaque émission. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son intégralité en podcast sur le site de la radio idfm98.fr.
Dans quelques minutes, à suivre Balade musicale présentée par Christophe Graffraud. Vendredi 9h30, je fais une spéciale CPME. Ça vous parle, Pascal? Donc voilà. Et donc à vendredi, belle semaine et prenez soin de vous.
I'm not sure.